Question d'islam par Al Benchir. Dans la nuit du 30 avril au 1er mai écoulé, donc en 2017, nous a quitté le professeur Mohamed Talbi, islamologue de renom. Et pour lui rendre hommage, pour parler à la fois de son œuvre, pour parler de l'homme, pour aussi saluer sa mémoire, je n'ai pas trouvé mieux que Kaltoum Safi, elle-même islamologue, maître de conférences à l'université de Paris-Ouest Nanterre. Elle enseigne la civilisation et la langue arabe et responsable de la section arabe. Kaltoum Safi, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous faire l'amitié de venir et parler aussi de ce grand homme que fut Mohamed Talbi. D'abord, une trajectoire de vie. Il a vécu une espérance de vie appréciable de nos jours.
Heureusement pour nous, oui.
96 ans.
Oui.
De 1921 à 2017.
Il a tout vu.
Et il a tout vu et lui-même est un témoin de deux siècles, en tout cas. Et vous l'avez connu, et vous êtes dépositaire, légataire aussi de sa pensée, et nous vous en savons tous gré de venir nous en parler. D'abord, qu'est-ce que vous connaissez de l'homme ?
D'abord, merci à vous, Ralb, de me donner cette chance de parler de Si Mohamed Talbi, paix à son âme, et merci à France Culture de s'ouvrir sur cette pensée monumentale de Mohamed Talbi et de tous ceux qui ont appris de la pensée de Talbi. Alors, de l'homme, ce qui restera de Si Mohamed Talbi, c'est certainement un homme de dialogue et d'ouverture. C'est un homme... Alors, je vais quand même commencer par le début, parler un petit peu de son profil. Aujourd'hui, on parle de lui en tant qu'islamologue, quoique lui...
Il était historien.
Voilà. Mais, il était historien, mais avant d'être historien, il avait commencé des études de la langue arabe. Lui, il était parti pour être spécialiste de la langue arabe en tant que linguiste et aussi dans sa dimension littéraire. Mais rapidement, il s'est trouvé cette vocation d'historien. Et c'était il y a très longtemps quand même. Et donc, à l'époque où il devait penser à sa thèse de doctorat qu'il avait préparée à la Sorbonne, il avait décidé de la faire dans le domaine de l'histoire. Parce qu'il était interpellé par l'état de, on va dire, l'orientalisme des écrits des orientalistes sur l'histoire médiévale musulmane de l'époque. Et il répétait souvent que les premiers écrits qu'il avait lus parlaient plutôt de Berbérie. Donc on ne parlait ni d'Algérie, ni de Tunisie. On parlait, enfin pas on, mais certains orientalistes de l'époque, historiens, parlaient de la Berbérie occidentale, de la Berbérie centrale. Et tout cela l'avait interpellé et c'est comme ça qu'il a décidé de parler donc de la Tunisie, de l'époque, de l'époque médiévale, et il a choisi de parler d'une dynastie, les Aghlabides, qui était la première dynastie autonome de Bagdad, donc qui s'est installée en Tunisie, et c'est de là qu'est parti l'islam pour toute l'Afrique, et même pour la rive de la Méditerranée, je parle de l'Europe.
Et même l'appellation, la toponymie Ifriqiya concernait... l'Algérie orientale actuelle et la Tunisie et les Aghlabides, cette dynastie, régnait sur l'Ifriqiya qui donnera son nom par la suite à l'Afrique.
Absolument. Oui, à l'Afrique parce que l'islam de toutes les façons était parti de Kairouan pour aller, on va quand même utiliser le mot conquérir l'Afrique et s'installer donc dans ces contrées qui n'étaient pas découvertes par l'islam et les dynasties musulmanes jusque-là. Donc voilà comment Si Mohamed Talbi est venu à l'histoire. Bien sûr, c'est un fond connaisseur des textes anciens et sa formation de philologue va énormément l'aider après dans ses études d'histoire, mais surtout dans ses études d'islamologie. Donc historien, puis après islamologue. Je vais me rappeler quelques mots, comment Talbi aimait se présenter lui-même, peut-être. C'est bien de le rappeler à nos jeunes d'aujourd'hui. Donc, il rappelait toujours, hein, on disait que c'est un penseur, que c'est un islamologue, qu'il a travaillé sur les textes anciens de fiqh, de sunna, de hadith, mais beaucoup de Coran.
Fiqh étant la jurisprudence.
La jurisprudence, oui. Mais il insiste et n'arrête pas de rappeler qu'il n'est ni faqih, ni alim, donc ni savant, ni même réformateur, muslah. On croyait tous que c'était plutôt un muslah. Il avait la figure de muslah, mais il répétait qu'il ne l'était pas. Pourtant, son œuvre portait sur le renouvellement de l'islam, mais plus que portée, elle était fondatrice, si vous voulez, d'une nouvelle vague de renouvellement de l'islam. Et d'ailleurs, j'emprunte le titre que lui donne un autre grand monsieur, c'est Abdou Filali Ansari, un fin connaisseur de ces courants-là, qui parlait de Talbi en disant « c'est un franc tireur de la théologie musulmane ». Et je trouvais cette appellation très originale et qui répond très très bien pour le profil de Mohamed Talbi.
Et nous verrons tout au long de cette émission en quoi il mérite bien ce titre.
Effectivement, il n'était pas le seul, mais il le mérite pleinement. Donc, il disait que je ne suis pas un ulema professionnel, je ne délivre pas de fatwa, je suis un penseur musulman libre. Ma religion est la liberté parce que Allah a créé l'homme libre. Et puis, il répète, et c'est intéressant, je ne suis pas un ulema, mais je connais ma religion mieux que les ulémas professionnels. Je suis musulman de conviction et de praxis. Donc voilà ce qui va caractériser Mohamed Talbi par rapport aux autres qui se sont inscrits dans cette lignée de rénovation de l'islam. Donc lui, il se place plutôt du côté de la foi fervente, tout en étant critique de tout le reste. Et aussi, il est assez protecteur, on va dire, du culte, mais selon des lectures qui renouvellent pas mal de ce côté-là de la religion.
Il s'insurge contre ce qu'il appelle les gestionnaires du sacré.
Absolument.
Ces oulémas qui se veulent gardiens de l'orthodoxie, mais qui en quelque sorte étouffent et atrophient cette tradition religieuse.
Absolument. Tout à fait, Ralb, il avait beaucoup d'articles, beaucoup de débats sur ce thème-là. Alors, quand il parle de sa biographie, il aimait dire que ma biographie est spirituelle. Donc, ce n'est pas étonnant quand on lit les écrits de Talbi. Il parle aussi d'une biographie qui est une sorte de mariage entre les diverses influences à caractère composite. Pourquoi composite ? Parce que si Mohamed Talbi était ouvert sur des courants anciens, des courants nouveaux, des courants religieux, pas seulement de la religion musulmane, mais aussi du monothéisme, de la religion chrétienne et judaïque, mais aussi aux courants de philosophie. Et au courant de philosophie à des penseurs qui ne sont pas seulement dans la foi, donc des penseurs sans Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il parle de ce mariage de diverses influences anciennes et nouvelles. Là aussi, j'aimais revenir sur cette présentation de Si Mohamed Talbi de lui-même. Alors, généralement, quand on parle de penseur qui est dans la foi fervente et qui aime le montrer, le pratiquer, ce genre de penseur verse facilement dans l'intégrisme ou le fondamentalisme. On en connaît beaucoup. Mais si Mohamed Talbi se défend d'être intégriste et fondamentaliste, je dirais même plus, il les critique parce que pour lui, l'intégriste est incapable de penser sa foi. Donc, si Mohamed Talbi essaie d'être, de penser la foi. Mais l'intégriste, est incapable de penser sa foi. Pourquoi ? Par peur de trébucher. Donc, il reste obstinément sur place et se réfugie dans le passé, un passé souvent imaginaire. Et là, je reprends une citation de si Mohamed Talbi à ce propos. Il nous dit « L'intégrisme est une maladie de la foi ». Et nous le vivons aujourd'hui.
Oui. Et l'intégriste ou l'extrémiste est celui qui n'arrive pas à se tenir tout seul au milieu du gué et traverser, donc il s'agrippe à l'extrême, au garde-fou, au parapet, par peur, par panique, de tout lâcher. Cette métaphore est toujours la sienne. Pour l'instant, nous essayons d'avoir ce portrait et de cerner l'homme et le personnage. Vous avez dit que c'était un homme de culture et un homme de dialogue. Il était aussi au PISAI, à l'Institut pontifical d'études arabes et islamiques.
Oui, Absolument.
Et il était aussi fondateur du groupe de recherche islamo-chrétien, si c'est le groupe.
Effectivement, oui.
Ou islamo-chrétienne, si c'est la recherche.
Oui.
Et il était aussi associé à la revue islamo-christiane.
Il était l'un des fondateurs aussi, hein, en tout cas, absolument. Et c'est certainement un homme de culture avec S à la fin. Pourquoi ? Parce que c'est un biculturel, si j'ose utiliser le terme. Donc, il n'y a pas de question, il connaît bien la culture arabo-musulmane, la culture musulmane et arabo-musulmane, mais aussi il connaît parfaitement la culture européenne, surtout française, dans sa dimension chrétienne. Et cela, ça a commencé très très tôt, puisque déjà enfant, il allait à l'école coranique, le Kotabi, en même temps, il était à l'école française. C'était du temps de la colonisation française en Tunisie. Et sur les bancs de l'école, donc, il avait ses petits camarades français et chrétiens. Et c'est là aussi, c'est à l'école française qu'il a découvert le christianisme. Il l'a pas seulement découvert, il l'a même aimé. Et il dit que ce sont les instituteurs et enseignants français, certains, pas tous, qui lui ont fait aimer le christianisme. Pas seulement la culture française, mais le christianisme. Et donc, il connaît parfaitement ces deux cultures. Il connaît la religion chrétienne, mais aussi la religion juive. Et il a dialogué, il a plein d'écrits, d'émissions, de débats, de dialogues entre ces trois religions. Et d'ailleurs, je disais tout à l'heure qu'il parlait de sa culture qui est un mariage, un brassage de culture, etc. Lui, il dit, moi, j'appartiens à cette culture, justement, qui existait à Kairouan, déjà au 8e, au 7e, 8e siècle. Où,
Temps des Arlabides.
Exactement. Et c'est là où cohabitaient musulmans, chrétiens et juifs. Ils cohabitaient pas seulement, mais ils construisaient ensemble une culture. Donc, moi, je me place dans le prolongement donc de cette culture-là et de toute sa vie, il a montré. Hein. Je parle surtout avant la dernière décennie où des choses se sont crispées. On en parlera peut-être tout à l'heure. Donc voilà, c'est en ce sens-là qu'il est homme de culture. D'ailleurs, il emploie toujours des citations qui interpellent. Parlant de christianisme et d'islam, il parle d'une dimension coranique du christianisme. Donc, il prend comme exemple le fait que le Coran ait cité Jésus au moins 25 fois et que le Coran cite Moïse 36 fois. Donc, voilà, il prend toujours tout cela en considération et en cela, il dit que les musulmans ne peuvent pas faire l'impasse sur le christianisme et le judaïsme. Quand on connaît qu'aujourd'hui, toutes les crispations qui se font et qui tournent vers l'adversité, vers le conflit entre ces religions, sous couvert de Coran, de versets, etc. Donc, je crois qu'il est très important de rappeler.
Non seulement il disait qu'un musulman ne peut pas faire l'impasse, mais il dit qu'il ne peut pas être musulman s'il ne reconnaissait pas l'authenticité ou la validité du message mosaïque dans la Torah ou le message christique dans l'évangile. C'est cette
Absolument.
Idée du message dont sa compréhension de la foi islamique se veut continuatrice des préceptes et des commandements contenus au que recèlent la Torah et l'évangile.
Absolument. Et d'ailleurs, il fait preuve d'érudition donc concernant la Torah, la Bible. Et il a récemment, c'est-à-dire dans la dernière période de sa vie, il avait écrit pas mal sur des comparaisons entre ces textes, des explications parfois bien à lui, il faut le reconnaître. Mais il a continué donc à travailler sur cette thématique-là. Alors, je parlais toujours de ce mariage que Si Mohamed Talbi aime évoquer concernant le monothéisme, ces deux cultures arabo-musulmanes, européennes, françaises et chrétiennes. Donc, mariage dans le sens figuré, mais aussi dans le sens pratique, puisqu'il s'est marié à une Française et qui, j'aimerais quand même rappeler, est restée chrétienne jusqu'à très très récemment. Donc, elle s'est convertie à l'islam quelques années avant la mort de Si Mohamed Talbi. Enfin, donc, il a pratiqué, on va dire jusqu'au bout, cette profession de liberté, de choix, hein, de la foi et de la religion.
Et il a milité pour la liberté de conscience.
Absolument. Ah oui, énormément. Et d'ailleurs, il s'est attiré les feux dans cette bataille-là, pas seulement des hommes de religion, mais des hommes politiques aussi. Hein. Donc là aussi, c'est un côté très très important de l'homme, Talbi, peut-être que j'évoquerai un peu plus tard aussi. Donc, j'ai parlé des religions. Talbi s'est énormément inspiré. Il a travaillé, étudié, puisé dans les religions, mais aussi dans les courants philosophiques, on va dire laïques. Et d'ailleurs, il évoque très souvent ces courants-là, qui, je rappelle, pour certains, sont athées. Et il dit qu'ils l'ont enrichi. Et par exemple, il avait une grande admiration de Sartre et s'est énormément inspiré de Merleau-Ponty. Il a dialogué, et je sais, avec Simone de Beauvoir, qu'il avait invité en Tunisie. Donc,
Il était doyen de l'université de la faculté de Tunis.
Absolument, merci Ralph de le rappeler. Il était doyen pendant très très longtemps, et c'est l'un des pères fondateurs de l'université tunisienne. Quand je l'avais connu dans les années 90, il était responsable du comité culturel de la ville de Tunis. Et dans ce cadre-là aussi, il a organisé pas mal de forums, de dialogue interreligieux, interculturel. Et donc, sur ce côté-là, je crois qu'on peut parler d'un vrai militant.
Alors, ce qui primait aussi à côté de tout cela, c'est comment être musulman aujourd'hui, comment être fils de son temps et de son époque, tout en étant un homme de foi comme il l'était lui-même. Ça se le préoccupait au plus haut point.
Ça, c'est la question centrale depuis la fin du réformisme arabo-musulman. C'est la question centrale qui a fait émerger tout ce courant que Ralph, vous connaissez bien, de ces penseurs libres, de cette nouvelle islamologie, de cette nouvelle façon de voir, de concevoir la modernité et l'islam. Et Talbi était parmi les premiers et les précurseurs à poser cette question fondamentale qui taraude tout le monde, aujourd'hui, pas seulement les penseurs et les chercheurs. Comment peut-on être musulman aujourd'hui ? Donc, c'est la question qui se pose à tous les musulmans qui sont attachés à leur temps et aux valeurs de leur culture moderne et à leur foi musulmane. Et qui sont en même temps attachés à une éthique qui, telle qui s'est déposée dans les consciences à une certaine considération du statut des hommes et des femmes, qui paraît souvent contradictoire. Donc Talbi s'est attelé à sortir l'homme dans la culture musulmane du statut de abd, c'est-à-dire esclave, sinon adorateur de Dieu. Donc
La compréhension d'adorateur de Dieu a été pour certains être une sorte de servitude au sens d'un esclave dénué de toute liberté, et ça a obéré la compréhension d'une foi vivante.
Absolument. Et donc, vous venez de prononcer le mot-clé, liberté, parce que quand on parle de comment être musulman aujourd'hui, on évoque surtout ces fondements, ces valeurs de la modernité, qui sont d'abord basées sur la liberté. Et donc, la donnée fondamentale qui a créé problème à cette interprétation de l'islam, à cette façon de voir la religion musulmane, c'est justement tout ce débat autour de la liberté. Et Talbi, donc, a soulevé ce point-là à partir de cette question, comment être musulman aujourd'hui. Alors, pour Talbi, et c'est une idée clé dans tous ses écrits, qui revient d'ailleurs, qui revient très souvent, pour lui, la foi musulmane est liberté. Donc, tout commence par là. Contrairement à ce que beaucoup connaissent, et je reviens toujours vers nos jeunes, ceux qui découvrent l'islam sur Internet et découvrent l'islam sous une image qui n'est pas forcément la bonne.
Donc, le cher Google.
Le cher Google et les autres chers, pas moi, pas moi néfaste, je dirais, et qui partent surtout de des obligations, de la contrainte, de forcer quelqu'un, forcer les choses. Pour Talbi, c'est tout à fait le contraire, que tout commence par un acte libre, que la foi, et là je le cite, la foi est un choix libre de l'individu qui ne s'oppose ni s'impose à la raison. Donc, et puis, il se base sur le fait que Dieu a accordé à l'homme une entière liberté dans cette question. La foi n'a aucun sens si elle n'est pas libre, s'il n'est pas un choix. Donc quand on voit tout le discours sur l'islam aujourd'hui, surtout le discours le plus répandu, où il n'y a pas de choix, il n'y a que de la détermination, il n'y a que cette idée d'ordre.
وقفت وسط الغرفة أفتش عن جعبي أتفقد المنفضة اللمبة الخسارة الربح الباب التصاوير فصغرت في نظري حتى صبرت طويلا أمام المرآة لأرى وجهي فتصفحت الهواء العابق بالدخان والسعال وكدت أمجه وأنساه وضأمت حتى صبرت كثيرا أمام الباب لأدخل ثم.
Nous sommes sur France Culture dans l'émission Questions d'Islam avec l'islamologue Kaltoum Safi, maître de conférence enseignant la civilisation et la langue arabe. Elle est responsable de la section arabe et chercheur, je ne féminise pas le titre, pardon Kaltoum, les chercheurs en islamologie. Et vous êtes là et nous vous remercions tous pour nous parler du regretté Mohamed Talbi qui nous a quittés il y a de cela quelques semaines. Il est décédé dans la nuit du 30 avril au 1er mai 2017. Et vous étiez en train de nous dire que pour lui, son credo, son kérigme, sa conviction première et sa proclamation, c'est que la religion doit être la liberté, qu'il ne peut pas y avoir de coercition de quelque ordre que ce soit pour répondre au mystère, à l'appel de Dieu ou de la foi monothéiste, qu'en homme libre, en être libre, homme ou femme libre.
Et c'est aussi dans toute la littérature islamologique, on va dire, moderne, c'est ça. Donc c'est un choix. Il faut que ce soit un pacte libre avec Dieu. Et Talbi dit « ma religion est la liberté ». Ce sont, pour certains, malheureusement, aujourd'hui, c'est vu comme deux mots contradictoires, religion et liberté.
Comme pour une sorte d'oxymore, alors que pour lui, ça allait de soi.
Exactement. Alors pour lui, mais il existe pas mal de passages, de versets dans le texte coranique qui vont confirmer cette façon de voir. Je reviens toujours à ce verset où on dit, où Dieu parle, donc en disant radiyallahu anhum wa radu anhu. Donc ceux qui ont été satisfaits par leur Dieu et Dieu aussi a été satisfait par leur fait ou par. Donc il y a un pacte mutuel d'acceptation de
et
satisfaction.
Et tel est le succès grandiose. Ça finit comme ça. Ceux qui ont été satisfaits de Dieu et Dieu les a agréés. Et tel est le succès grandiose.
Wa dhaka huwa al-fawz al-azim. Absolument. Merci pour la magnifique traduction. Donc voilà, je reviens à cette notion de liberté. Alors, liberté dans la foi, et c'est donc, voilà, c'est argumenté, mais aussi liberté dans l'exercice de la pensée, même la pensée théologique. Et à ce titre, Talbi dit « Je ne refuse à personne la voie qu'il choisit, mais je n'apprécie pas non plus qu'on me refuse le choix auquel je me tiens. » Je ne veux harceler ni commander personne. Donc, il se place toujours dans cette position de penseur libre. Il n'y a pas de contraintes et lui non plus ne veut imposer rien aux autres, que tout est liberté. Donc, voilà, je dirai jamais assez sur ce thème de liberté évoqué par Mohamed Talbi et que il est très, très important pour les jeunes et les moins jeunes qui s'attachent à l'islam aujourd'hui, qu'ils ne laissent pas leur liberté. Donc, pour en contrepartie d'un ordre imposé qui n'est pas toujours en phase avec leur temps, avec les exigences de la vie d'aujourd'hui.
Alors, Mohamed Talbi fait partie aussi de ceux qui distinguent le moment mohammedien et le fait coranique. en le distinguant du fait islamique qui est une longue et lente construction humaine dans l'histoire.
Absolument, oui. Là aussi, Ralb, c'est une autre clé donc, de tout ce renouvellement de la pensée, de toute cette nouvelle islamologie. Donc, faire la part des choses, donc faire la part de l'histoire d'une part et des du texte fondamental du Coran. Talbi parle de l'islam coranique et de l'islam historique. Donc, et pour lui, comme d'ailleurs pour d'autres islamologues, d'autres penseurs, cette confusion, c'est elle qui a créé pas mal de malentendus et c'est elle qui a conduit à pas mal de fermetures. Donc, le fait de concevoir, de faire l'amalgame entre cet islam historique, qui est l'islam de l'Empire, comme dirait Arkoun, selon une autre appellation, et le texte coranique lui-même. Pour Talbi, et là on va peut-être utiliser des termes un peu scientifiques et spécifiques à l'islamologie, donc pour Talbi, le Coran est atemporel. Et cette bataille-là, donc le Coran créé ou incréé, elle est très très vieille. Elle remonte au début de l'islam avec les Mu'tazilites. Et c'est le tournant, si on peut dire, entre un islam, une foi raisonnée, une foi qui marie bien, enfin un islam qui marie bien foi et raison, et un islam littéraliste, donc qui favoriserait à long terme la fermeture. Donc faire la différence entre le fait coranique et le fait historique, cet islam coranique et cet islam historique, donc, est une question clé. Donc, c'est la base de toute cette islamologie nouvelle dans laquelle s'inscrit Mohamed Talbi. Alors, qu'est-ce que l'islam historique ?
Est-ce que ça aussi, pardon Kaltoum, Safi, je ne veux pas vous interrompre, dans votre développement, mais est-ce que ça sous-entend qu'il n'y a pas lieu de canoniser ou de sacraliser ce qui est relevé des pratiques du peuple récipiendaire de la révélation au 7e siècle. Le Coran, certes, a des versets qui sont prescriptifs et normatifs, ceux-là, il faut les relativiser à leur contexte et ne jamais les utiliser comme un prétexte pour un nouveau contexte, sinon on prend en otage le texte. Et il y a des passages qui sont atemporels ou anhistoriques, mais ne pas canoniser la pratique des hommes au 7e siècle.
Absolument. Donc si le Coran est atemporel, cela n'empêche pas qu'il est inscrit dans l'histoire, dans une certaine histoire, hein, l'histoire des siècles premiers. Et c'est là tout le conflit entre ce qui est connu de façon générale aujourd'hui comme étant la charia, qui est devenue une nouvelle religion. Donc justement, canoniser des pratiques, mais aussi des interprétations passées. Donc, et là, Talbi est très très lucide, donc... Il répète ce qui est bien de rappeler, c'est le fait que les oulémas, ils ont fait leur travail à l'époque. Donc, ils ont interprété selon les exigences de leur temps, mais ça ne leur donne pas autorité de canoniser toute la religion pour tous les temps. Et ça ne donne pas, ça n'autorise pas non plus les oulémas, enfin tout le personnel religieux aujourd'hui, justement de revenir vers cet entre guillemets âge d'or, ce salafisme, toute cette interprétation du salaf, pour l'imposer et pour en faire un ordre islamique qui s'impose aujourd'hui en dehors dans le monde musulman, mais aussi en dehors du monde musulman. Donc toute la question est là.
Il rappelle ce que disait Abu Hanifa, le maître éponyme de la première école juridique, mort en 767, ben, à propos de ses prédécesseurs, ils ne furent que des hommes et nous sommes des hommes. Et Mohamed Talbi dit, et Abu Hanifa ou d'autres, ne nous ont pas engagés pour des siècles après leur propre époque à eux. Donc, ils furent des hommes et nous sommes des hommes.
Exactement, tout à fait, on revient vers l'homme. D'ailleurs, c'est une dimension très très importante dans la pensée de Talbi. Donc, le salaf ont bien vécu leur temps, ont fait des choses extraordinaires pour leur temps. Mais Talbi va encore plus loin, et là j'évoque l'homme polémique. Il dit qu'ils n'ont pas fait que de bonnes choses. parce que, dans leur relation avec l'ordre politique de l'époque, ils se sont eux aussi compromis. Et ça, c'est humain, ça n'a rien. C'est-à-dire, le fait d'être dans le cadre de l'islam ne va pas les épargner de ces pratiques de tout homme de religion ou homme de pouvoir, parce que là, on est dans le pouvoir, qui vit l'époque politique de son temps. Donc, il dit qu'ils sont salafs, d'accord, mais ils sont pas si pieux que ça, puisque... Donc certains, et là il cite beaucoup d'exemples, hein, ici malheureusement on ne peut pas reprendre tous les exemples qu'il prend, qu'ils ont fermé les yeux sur certaines pratiques, que c'est vrai, la civilisation musulmane était grandiose, que ces hommes-là de ces époques ont créé une civilisation extraordinaire, mais ce n'était pas toujours synonyme de justice sociale. Donc...
Il disait aussi que ces pieux anciens ne sont pas si pieux que ça, ce n'est qu'une construction après coup, parce qu'après tout, ils se sont comportés comme des êtres humains, avec leurs frictions, leurs rivalités, ils ont fermé les yeux sur certaines injustices aussi, et qu'on a magnifié après coup cette époque-là qui donne lieu à ce courant, le salafisme, cette volonté de revenir à la pratique des pieux anciens.
Absolument. Et là, on revient à l'histoire. Donc, justement, magnifier tout ça, idéaliser tout ça. Parfois, ils sont idolâtrés, ces pieux anciens, par les pratiquants d'aujourd'hui. Donc, on revient vers l'histoire et l'importance de l'histoire, de cette nouvelle lecture de l'histoire, de cette approche critique de l'histoire, justement, pour déblayer, donc pour revenir à ce qui était du fait coranique et ce qui était de l'histoire et ce que l'histoire a fait de la religion aussi. Donc l'apport de Talbi ici est très très important.
Il a aussi une approche provocatrice à juste raison. Moi je la compare toujours à ce coup de bambou qu'on donne au bonze quand il est en pleine léthargie, en pleine méditation pour qu'il se réveille, quand il dit que la charia est obsolète.
Absolument. Alors là, c'est une conséquence donc de tout ce travail sur l'histoire, de tout ce travail sur le texte coranique lui-même. Et c'est le résultat de toute cette pensée sur la part des anciens, qu'est-ce qui était vrai de leur droiture, qu'est-ce qu'ils ont réellement apporté, mais qu'est-ce qu'ils ont aussi travesti de cette histoire-là. Talbi, parmi les nouveaux penseurs de l'islam, était peut-être le plus dur contre la charia. Il se présente toujours comme coraniste, et donc peut-être que je reviendrai tout à l'heure sur cette appellation de un courant de coraniste.
Il dit distinguer du coranologue, mais
oui, c'est vrai. Quoique il est aussi coranologue
aussi.
Donc, il dit « Je suis coraniste », se basant sur cette citation « Seul le Coran oblige ». La charia n'oblige pas parce que le Coran est parole divine alors que la charia est une construction humaine. C'est une parole d'homme. Je rappelle rapidement, avant d'avancer sur cette appellation de coraniste, que ce n'est pas Talbi qui a inventé ce courant ni cette façon de se présenter. Mais on peut déjà nommer les Mu'tazilites, ce premier courant rationaliste de l'islam, comme coraniste. Parce qu'il y a un retour vers le texte, une pensée sur le texte. Mais aussi...
Donc ils avaient la hardiesse et l'audace de l'interpréter selon la raison humaine et selon le logos.
Et ça leur a coûté très cher.
Oui, à partir du milieu du 9e siècle, et notamment avec la mort d'Ahmed ibn Hanbal en 855, où la doctrine du Coran incréé a pris le pas. Et ça, c'était quelque chose de mortifère.
Absolument, et les fermetures ont commencé. Donc, pour revenir à cette appellation de coraniste, et j'aime bien Ralb l'expliquer, parce que remettre le Coran à l'avant de la scène, c'est très très important hein, pour les jeunes, pour les moins jeunes, pour cette intelligibilité de la religion aujourd'hui. C'est très très important. Donc, coraniste, c'est pas Talbi. Il se présente toujours en tant que coraniste, mais ce n'est pas lui qui l'a inventé. Donc, ça remonte déjà à très très loin, mais aussi le courant réformiste du 19e, 20e siècle est revenu sur ça. Et quand Talbi dit « seul le Coran oblige », au fait, il emprunte cette citation à Dr Sadri, qui déjà dans la revue Al-Manar, que publiait Rachid Rida avant qu'il se retourne complètement contre son maître, quand on était encore dans le débat réellement réformateur. Donc il y avait ce retour vers le Coran, hein, et c'est un retour qui était un peu influencé par le protestantisme, mais ça c'est une autre discussion. Donc la charia est obsolète, mais on revient vers le Coran. Donc la charia est obsolète parce que justement c'est toute la charia qui est l'ensemble de ce texte, donc qui font l'ordre islamique qu'on doit imposer un peu partout. La charia aussi c'est l'ensemble d'interprétations sur des siècles qui est devenu un second livre, qui est devenu même une seconde religion. Donc on évoque la charia mais on n'évoque pas Allah, on évoque rarement le Coran, on retourne à la charia. Quand on parle islam, surtout aujourd'hui, on a tendance de mettre la charia au centre, alors que la charia n'est pas divine. Et d'ailleurs, la charia dit Talbi, et après aussi d'autres penseurs, ce n'est pas la voie d'Allah, ce n'est pas cet ensemble de lois. C'est vrai que ce sont des lois qui s'inspirent de la révélation, qui prennent source dans ces versets de Houdoud, donc ces versets qui vont donner...
Dit de limites, comme on les appelle parfois ces versets.
Exactement, les limites, c'est-à-dire arrêtées par Allah. Donc voilà, réduire le Coran à des versets normatifs, donc ça ne peut pas favoriser un islam qui va s'appliquer à tous les temps, comme est la vocation de l'islam et du Coran.
Donc, et que ces versets-là sont des versets qui ne doivent être appréhendés que comme une jurisprudence à un moment donné de l'histoire pour une communauté de personnes qui vont passer de l'état tribal à une sorte de confédération.
Absolument. Et d'ailleurs, pour Talbi aussi, je rappelle que ces lectures qui ont fait du texte coranique une recette normative, un texte de loi, un texte d'interdiction, n'a favorisé tout au long de l'histoire de l'islam que des conflits. Donc des conflits déjà intermusulmans entre écoles de fiqh, entre sectes, entre... Donc ça n'a généré que ce conflit qui sont projetés aujourd'hui dans nos sociétés d'aujourd'hui. Donc continuer à centraliser la religion, l'islam en l'occurrence, sur la charia n'a rien de bénéfique donc pour nos sociétés d'aujourd'hui. Et alors, Talbi part dans un long réquisitoire contre la charia. Et dans un livre, dans un de ses derniers livres qui a été publié en 2009, qui s'appelle « L'islam n'est pas voile, il est culte ».
J'allais y venir donc, à propos de ces questions-là, mais vous avez bien fait d'anticiper, parce qu'il parle aussi dans son autre livre « Plaidoyer pour un islam moderne ».
Absolument.
Où il descend en règle, si je puis dire, la fameuse charia. Alors,
absolument,
faisons
oui.
La transition avec ces questions de voile, qu'on emmitoufle certaines fillettes à peine nubiles, et c'est au contraire même de l'idée du respect de la dignité humaine dans sa composante féminine.
Absolument. Et donc, vous avez évoqué le livre « Plaidoyer pour un islam moderne » qui est un tournant dans l'islamologie moderne. C'est un livre qui a été publié dans les années... au départ, c'était un livre qui était publié en arabe. C'est un livre d'entretien où Talbi s'est livré sur ces questions-là. Je disais tout à l'heure que j'ai connu Talbi dans les années 90. Il ne voulait pas s'engager dans des confrontations, si vous voulez, avec les fouqaha et les ulama. Il disait non. Il avait toujours peur. Il a dit non, moi je suis penseur, je ne veux pas entrer.
Mais il n'est pas descendu dans l'arène.
Exactement. À partir, donc, dans ce livre-là, Plaidoyer d'un islam moderne, il est descendu dans l'arène. Donc, il a pris le taureau par les cornes, on va utiliser toutes les formules donc de courage, et il a commencé donc à déconstruire publiquement et en termes clairs et nets donc certains pans de cette charia qui sont vraiment obsolètes, comme il le dit. Alors, il déconstruit la charia, pas seulement telle que qu'on la connaît aujourd'hui, ou alors selon les fatwas d'aujourd'hui, mais aussi il remonte au début de la charia, au début donc
de l'élaboration du corpus
exactement,
juridique.
Du corpus juridique et des fondements, c'est-à-dire le raisonnement par analogie, etc. Donc pas seulement les fatwas ultimes, mais les mécanismes aussi de la charia. Alors, concernant le moment du fondement de la charia, je vais prendre un exemple. Il s'attaque à la conception de la zakat, qui est l'aumône
dite légale, le troisième pilier de la pratique cultuelle islamique.
Donc, il dit que la charia avait vider la zakat de sa visée réelle, de son contenu réel, et que la zakat telle que calculée et telle que organisée par les ulémas déjà dans les premiers siècles, elle tendait à enrichir les riches et appauvrir davantage les pauvres, et que la zakat était utilisée chez pas mal de dynasties pour enflouer les caisses de
le trésor public, l'équivalent du trésor public.
Et que les sultans de l'époque, les émirs, etc., se servaient à volonté de ces caisses normalement destinées aux pauvres pour s'enrichir et pour tout le faste que l'Occident admire. Donc, et que ça, bien sûr, c'est une... Il dit que certains textes ont été utilisés, voire même on a abusé des textes jusqu'à la falsification, justement, dans des cas comme pour légaliser et rendre halal certaines pratiques qui n'ont rien à voir avec l'idée de base, donc spirituelle et éthique de l'islam. Donc voilà un exemple de cette charia déjà ancienne.
نحن أهل الشاطئ الآخر
Kaltoum Safi, islamologue, maître de conférences, enseignant la civilisation et la langue arabe, responsable de la section arabe à l'université Paris-Ouest Nanterre, et l'est aussi chercheur en islamologie. Aujourd'hui, nous parlons de la pensée et de l'œuvre de Mohamed Talbi, l'islamologue qui nous a quittés récemment, et nous étions en train de passer en revue ses idées audacieuses, parfois perçue comme provocatrice de notre point de vue à juste raison. Et ces derniers temps, et notamment en 2015, Kaltoum Safi, vous le savez, il a défrayé la chronique avec des prises de position vraiment courageuses en disant qu'il n'y a pas lieu de s'apesantir sur ces questions d'alcool, de boissons fermentées, etc., que ce n'est pas ça le cœur de la spiritualité vivante, et ça avait provoqué un tollé général.
Absolument, hein. Il était tellement incompris, et on a réalisé donc devant ces attaques combien cet esprit appauvrissant de la spiritualité musulmane, de la religion, du message coranique sévit, et que dès que quelqu'un, alors que c'est un érudit, c'est un pratiquant, c'est un homme de foi, dès que ce discours au contraire à cette simplification systématisée est devenu insupportable. Effectivement, il s'est attaqué à pas mal de choses. Je vais revenir sur le débat sur le voile. C'est oui. un débat qui anime énormément ici en France. Heureusement qu'il n'était pas le seul à dire que le voile, ce n'est pas une prescription coranique musulmane. Donc, il n'était pas le seul pour cela. Il est polémique, d'accord, mais au moins, c'est pas une bida, c'est pas une innovation comme beaucoup voulaient le croire. Mais il est allé plus loin. Donc, Talbi dit que la charia déteste les femmes. Et c'est vrai, si on prend le contenu donc, de ce corpus, migrante,
il a mis en exergue la misogynie des jurisconsultes, ceux qui avaient mis en produit en quelque sorte la fameuse charia.
Absolument. Alors, la misogynie des jurisconsultes, mais pas seulement, hein, même de certains khulafa comme Omar. Hein. Connu chez beaucoup de savants qu'il est le plus misogyne et qui a donné donc à tracer le cap de cet islam qui, comme dit de cette charia, pardon, qui, comme dit Talbi, déteste les femmes. Alors Talbi dit aussi, comme on est en train de rendre hommage à cet homme, que la charia favorise le culte de la laideur, alors que le Coran exulte le luxe, le beau.
La valorisation du raffinement.
Exactement. Et que la charia déteste les femmes, alors que Dieu et son envoyé aiment les femmes. La charia consacre la ségrégation entre hommes et femmes, alors que le Coran ne le fait pas. Alors là, c'est à discuter, mais en tout cas, il y a pas mal de passages qui le prouvent. Elles sont interdites des mosquées, alors qu'il n'y a rien qui justifie cela. Elles sont interdites de l'imamat par la charia, alors qu'il n'y a rien dans le texte qui le favorise. Donc, il part sur une longue série d'explications comme ça. Pour le voile, alors il dit que rendre des femmes corbeaux, des femmes ogresses, avec ces habits pesants et moches, ne répond à aucune prescription du Coran.
Et n'a rien
Coran.
De spirituel.
Voilà, et que, d'ailleurs, il emprunte la fameuse phrase « l'habit ne fait pas le moine », il dit que le voile ne fait pas la musulmane, il fait pas la foi. Et que, d'ailleurs, l'islam salafiste, c'est comme ça qu'il appelle, n'est pas culte. Donc, pas mal de filles, de femmes voilées, ou aussi d'hommes qui obéissent au code vestimentaire de la charia, ça aussi c'est une autre bida, hein, mais qui ne pratiquent pas la salat.
Bida, pour nos amis auditeurs, est une innovation blâmable.
Blâmable, voilà. Merci encore une fois. Donc, elle se couvre, etc., mais ne pratique pas le culte. Et que, voilà, je reviens à cette... que le voile ne fait pas la musulmane, ce n'est pas... et comme l'habit ne fait pas le moine. Et pour revenir au Coran, et comment le Coran ne prescrit rien, le voile n'a rien de coranique. Il dit que dans tout le Coran, il n'y a pas un seul mot qui demande aux femmes de couvrir leur tête. Et d'ailleurs, le mot « char », cheveux, n'existe pas. Qu'est-ce qu'on est en train de couvrir ? Donc, si c'était pour couvrir les cheveux, c'est ça. Donc, ça, c'est pour le voile. Que ça n'a rien de divin, ça n'a rien de coranique, en tout cas. Mais il va encore plus loin et il dit que le jour où les femmes musulmanes, les filles, déposeraient ce voile qui est l'emblème de cette charia salafiste, donc de ce code misogyne, etc., peut-être que la société commencera à se débarrasser de cette schizophrénie. Là, il parle des sociétés musulmanes, de cette foi hypocrite et que le salafisme a fait du voile son emblème. C'est pour ça. C'est vrai que parfois, on nous décourage d'entrer dans le débat concernant le voile, comme quoi, bon, c'est une histoire de liberté personnelle. Ça n'a rien à voir de liberté personnelle. C'est l'emblème de cette fermeture et que le déposer aiderait les hommes à se libérer. Et là, c'est ce que dit Talbi, et aussi donc aiderait la société à sortir de cette schizophrénie.
Oui, alors il était opposant au régime de Ben Ali, mais il était davantage au parti Ennahda parce qu'il n'acceptait pas cette idée que le désir politique de Dieu soit compris ou pénétré que par quelques-uns, et de surcroît, ayant scruté la volonté divine, on l'impose aux autres concitoyens.
Absolument. Donc, il est contre ce qu'on appelle l'islam politique, contre l'utilisation de l'islam pour des fins politiques. D'ailleurs, il n'arrête pas de répéter que les mosquées ne sont pas des forums politiques, et c'est ce que Nahda a fait en Tunisie. Il s'est battu déjà dès le début de son parcours contre les traditionnalistes, donc, mais aussi contre les fondamentalistes, les intégristes, et encore plus contre le parti An-Nahda. Et d'ailleurs, At-Talbi a été diabolisé, tout son discours justement contre ce discours qui porte sur le culte, sur cette histoire du voile, sur, vous avez évoqué tout à l'heure, boire du vin, etc. Et Talbi essayait de dire que c'est un débat ancien, que, c'est-à-dire dès le début de l'islam, il y avait débat sur est-ce que le vin est réellement interdit ou il est juste quelque chose à éviter parce qu'il est néfaste pour la personne.
De nos jours, ce serait buvé avec modération.
Absolument. Il est à consommer avec modération puisque dans un verset, il est dit « wafihi manafi'u », donc il comporte des bienfaits. C'est-à-dire qu'il a porté, il a repris ce débat qu'il n'a pas inventé, mais à cause de ça, il a été diabolisé.
Et quelques-uns, comme Razès et Avicenne plus tard, ont énuméré les 10 bienfaits.
Du vin, absolument. Il devait avoir plus que 10 peut-être, mais bon.
Alors, les 10 bienfaits, c'est DITS, mais il aurait pu en avoir 10 DX. Kaltoum Safi, nous nous approchons du terme de notre émission ensemble. La dernière question portera sur... c'était un homme de dialogue. Moi, j'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de frénésie son livre à deux voix avec Olivier Clément, Respect têtu, Olivier Clément, chrétien orthodoxe, et cette volonté de dialogue, d'ouverture, de respect, d'altérité, confessionnelle ou pas, devait asseoir plus que le vivre ensemble. C'est comment faire société commune.
Absolument, et ça parle énormément pour notre société d'aujourd'hui, que ce soit dans les pays musulmans ou en Europe comme ici en France. Mais si vous permettez, Ralph, je vais finir pour la charia avant de répondre à votre question, combien intéressante.
Dans le temps qui nous est imparti, l'important c'est à la charia.
Rapidement, c'est juste pour dire que contrairement à beaucoup d'autres penseurs qui font avancer le débat concernant la charia, Talbi ne s'est pas limité à la déconstruction de la charia comme je viens de, selon les exemples que j'ai pris, mais il a essayé de donner une clé de sortie. C'est cette lecture vectorielle. Donc, il a repris une ancienne école andalouse qui est l'école des maqasid, qui interprétait le Coran selon les finalités de la loi, mais pas seulement la littéralité du texte.
Fondée par le maître andalou Chatibi, mort en 1389.
Effectivement, et repris dans l'ère moderne par Halel Al-Faisi et aussi par Ben Ashour en Tunisie, mais Talbi est allé au-delà. Donc, il propose une lecture vectorielle. Qu'est-ce que cette lecture vectorielle en deux mots? C'est justement regarder où est-ce que le texte pointe, c'est-à-dire quel est le bienfait d'une certaine...
La visée du texte.
En d'autres termes, si par exemple punir le voleur, enfin il est dit dans le verset qu'il faut couper la main, la finalité c'est pas le fait de couper la main, c'est de l'empêcher de voler. Et donc on peut aujourd'hui ne pas couper la main mais empêcher le voleur de voler. Et pourquoi cette lecture vectorielle est très importante pour des chercheurs comme moi, mais aussi pour des croyants, pour ceux justement qui se posent la question comment être musulman aujourd'hui, c'est comment réconcilier l'islam avec les droits de l'homme, respecter l'intégrité physique des personnes tout en restant dans l'islam.
Et leur intégrité morale.
Effectivement.
Ma chère Kaltoum Safi, c'est avec regret que nous devons arrêter ici parce que nous sommes arrivés vraiment au terme de l'émission. Merci infiniment de nous avoir présenté Mohamed Talbi en si peu de temps. Et certes, peut-être que si vous le voulez bien, vous reviendriez nous en parler davantage. Nous étions sur France Culture, nous le sommes toujours, mais à l'émission Questions d'Islam. Vous retrouverez les références des musiques et des livres sur le site franceculture.fr. L'attachée d'émission est toujours Sylvia Favre. La prise de son a été assurée aujourd'hui par Manuel Couturier et la réalisation est toujours assumée avec brio par l'ami Franck Lilin.
Need when غشيها